Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. De nouveau ensemble dans nos lectures en liberté, nous allons continuer notre voyage à travers quelques textes, et en particulier des textes d'auteurs classiques. Aujourd'hui, Guy de Maupassant. Une vendetta. La veuve de Paolo Saverini habitait seule avec son fils une petite maison pauvre sur les remparts de Bonifacio. La ville, bâtie sur une avancée de la montagne, suspendue même par places au-dessus de la mer, regarde par-dessus le détroit hérissé d'écueils la côte plus basse de la Sardaigne. À ses pieds, de l'autre côté, la contournant presque entièrement, une coupure de la falaise qui ressemble à un gigantesque corridor lui sert de port. Amène jusqu'aux premières maisons, après un long circuit entre deux murailles abruptes, les petits bateaux pêcheurs italiens ou sardes, et chaque quinzaine, le vieux vapeur poussif qui fait le service d'Ajaccio. Sur la montagne blanche, le tas de maisons pose une tache plus blanche encore. Elles ont l'air de nids d'oiseaux sauvages, accrochés ainsi sur ce roc, dominant ce passage terrible où ne s'aventurent guère les navires. Le vent, sans repos, fatigue la mer, fatigue la côte nue, rongée par lui, à peine vêtue d'herbe. Il s'engouffre dans le détroit dont il ravage les deux bords. Les traînées d'écume pâle, accrochées aux pointes noires des innombrables rocs qui percent partout les vagues, ont l'air de lambeaux de toile flottant et palpitant à la surface de l'eau. La maison de la veuve Saverini, soudée au bord même de la falaise, ouvrait ses trois fenêtres sur cet horizon sauvage et désolé. Elle vivait là, seule, avec son fils Antoine et leur chienne sémillante, grande bête maigre, aux poils longs et rudes de la race des gardeurs de troupeaux. Elle servait au jeune homme pour chasser. Un soir, après une dispute, Antoine Saverini fut tué traîtreusement d'un coup de couteau par Nicolas Ravolati, qui, la nuit même, gagna la Sardaigne. Quand la vieille mère reçut le corps de son enfant que des passants lui rapportèrent, elle ne pleura pas. Mais elle demeura longtemps immobile à le regarder. Puis, étendant sa main ridée sur le cadavre, elle lui promit la vendetta. Elle ne voulut point qu'on restât avec elle, et elle s'enferma auprès du corps avec la chienne qui hurlait. Elle hurlait, cette bête, d'une façon continue, debout au pied du lit, la tête tendue vers son maître et la queue serrée entre ses pattes. Elle ne bougeait pas plus que la mère, qui, penchée maintenant sur le corps, l'œil fixe, pleurait de grosses larmes muettes en le contemplant. Le jeune homme sur le dos, vêtu de sa veste de gros drap trouée et déchirée à la poitrine, semblait dormir. Mais il avait du sang partout, sur la chemise arrachée pour les premiers soins, sur son gilet, sur sa culotte, sur la face, sur les mains. Des caillots de sang s'étaient figés dans la barbe et dans les cheveux. La vieille mère se mit à lui parler. Au bruit de cette voix, la chienne se tut. « Va, va, tu seras vengé, mon petit, mon garçon, mon pauvre enfant, dors. Dors, tu seras vengé, entends-tu? C'est la mère qui le promet. Et elle tient toujours sa parole, la mère, tu le sais bien. Et lentement, il se pencha vers lui, collant ses lèvres froides sur les lèvres mortes. Alors Sémillante se remit à gémir. Elle poussait une longue plainte monotone, déchirante, horrible. Elles restèrent là toutes les deux, la femme et la bête, jusqu'au matin. Antoine Saverini fut enterré le lendemain, et bientôt on ne parla plus de lui dans Bonifacio. Il n'avait laissé ni frère ni proche cousin. Aucun homme n'était là pour poursuivre la vendetta. Seule la mère y pensait, la vieille. De l'autre côté du détroit, elle voyait du matin au soir un point blanc sur la côte. C'est un petit village sarde, Longo Sardo, où se réfugient les bandits corses traqués de trop près. Ils peuplent presque seuls ce hameau en face des côtes de leur patrie et ils attendent là le moment de revenir, de retourner au maquis. C'est dans ce village, elle le savait, que s'était réfugié Nicola Ravolati. Toute seule, tout le long du jour, assise à sa fenêtre, elle regardait là-bas en songeant à la vengeance. Comment ferait-elle sans personne, infirme, si près de la mort? Mais elle avait promis, elle avait juré sur le cadavre. Elle ne pouvait pas oublier, elle ne pouvait attendre. Que ferait-elle? Elle ne dormait plus la nuit, elle n'avait ni repos, ni apaisement. Elle cherchait, obstinée. La chienne à ses pieds sommeillait et parfois, levant la tête, hurlait au loin. Depuis que son maître n'était plus là, elle hurlait souvent ainsi, comme si elle l'eût appelé, comme si son âme de bête inconsolable eût aussi gardé le souvenir que rien n'efface. Or, une nuit, comme Sémillante se remettait à gémir, la mère tout à coup eut une idée de sauvage, vindicatif et féroce. Elle la médita jusqu'au matin. Puis, levée dès les approches du jour, elle se rendit à l'église. Elle pria, prosternée sur le pavé, abattue devant Dieu, le suppliant de l'aider, de la soutenir, de donner à son pauvre corps usé la force qu'il lui fallait pour venger le fils. Puis elle rentra. Elle avait dans sa cour un ancien baril défoncé qui recueillait l'eau des gouttières. Elle le renversa, le vida, l'assujettit contre le sol avec des pieux et des pierres, puis elle enchaîna Sémillante à cette niche et elle rentra. Elle marchait maintenant sans repos dans sa chambre, l'œil fixé toujours sur la côte de Sardaigne. Il était là-bas, l'assassin. La chienne, tout le jour et toute la nuit, hurla. La vieille, au matin, lui porta de l'eau dans une jatte, mais rien de plus, pas de soupe, pas de pain. La journée s'écoula. Sémillante, exténuée, dormait. Le lendemain, elle avait les yeux luisants, le poil hérissé, et elle tirait éperdument sur sa chaîne. La vieille ne lui donna encore rien à manger. La bête devenue furieuse aboyait d'une voix rauque. La nuit encore se passa. Alors, au jour levé, la mère Saverini alla chez le voisin prier qu'on lui donnât deux bottes de paille. Elle prit de vieilles hardes qu'avait portées autrefois son mari et les bourra de fourrage pour simuler son corps humain. Ayant piqué un bâton dans le sol devant la niche de Sémillante, elle noua dessus ce mannequin qui semblait ainsi se tenir debout, puis elle figura la tête au moyen d'un paquet de vieux linge. La chienne surprise regardait cet homme de paille et se taisait, bien que dévorée de faim. Alors la vieille alla acheter chez le charcutier un long morceau de boudin noir. Rentrée chez elle, elle alluma un feu de bois dans sa cour auprès de la niche et fit griller son boudin. sémillante, affolée, bondissait, écumait, les yeux fixés sur le grill dont le fumet lui entrait au ventre. Puis la mère fit de cette bouillie fumante une cravate à l'homme de paille. Elle la lui ficela longtemps autour du cou, comme pour la lui entrer dedans. Quand ce fut fini, elle déchaîna la chienne. D'un saut formidable, la bête atteignit la gorge du mannequin et les pattes sur les épaules se mit à le déchirer. Elle retombait un morceau de sa proie à la gueule, puis s'élançait de nouveau, enfonçait ses crocs dans les cordes, arrachait quelques parcelles de nourriture, retombait encore et rebondissait acharnée. Elle enlevait le visage par grands coups de dents, mettait en lambeaux le col entier. La vieille, immobile et muette, regardait l'œil allumé. Puis elle renchaîna la bête, la fit encore jeûner 2 jours. Et recommença cet étrange exercice. Pendant 3 mois, elle l'habitua à cette sorte de lutte, à ce repas conquis à coups de croc. Elle ne l'enchaînait plus maintenant, mais elle la lançait d'un geste sur le mannequin. Elle lui avait appris à le déchirer, à le dévorer, sans même qu'aucune nourriture fût cachée en sa gorge. Elle lui donnait ensuite, comme récompense, le boudin grillé pour elle. Dès qu'elle apercevait l'homme, sémillante frémissait, puis tournait les yeux vers sa maîtresse qui lui criait « Va !» d'une voix sifflante, en levant le doigt. Quand elle jugea le temps venu, la mère Saverini alla se confesser et communia un dimanche matin avec une ferveur extatique. Puis, ayant revêtu des habits de mâle semblables à un vieux pauvre déguenillé, elle fit marcher avec un pêcheur sarde qui la conduisit accompagnée de sa chienne de l'autre côté du détroit. Elle avait dans un sac de toile un grand morceau de boudin. Sémillante jeûnait depuis 2 jours. La vieille femme, à tout moment, lui faisait sentir la nourriture odorante et l'excitait. Elles entrèrent dans Longo Sardo. La Corse allait en boitillant. Elle se présenta chez un boulanger et demanda la demeure de Nicolas Ravolati. Il avait repris son ancien métier, celui de menuisier. Il travaillait seul au fond de sa boutique. La vieille poussa la porte et l'appela. « Hé, Nicolas !» Il se tourna. Alors, lâchant sa chienne, elle cria « Va, va, dévore, dévore !» L'animal affolé s'élança, saisit la gorge. L'homme étendit ses bras, l'étreignit, roula par terre. Pendant quelques secondes, il se tordit, battant le sol de ses pieds, puis il demeura immobile. Pendant que sémillante lui fouillait le cou, qu'elle arrachait par lambeaux. Deux voisins, assis sur leur porte, se rappelèrent parfaitement avoir vu sortir un vieux pauvre avec un chien et flanqué, qui mangeait tout en marchant quelque chose de brun que lui donnait son maître. La vieille, le soir, était rentrée chez elle. Elle dormit bien, ce soir-là.
Tous les pavés de la rue qui monte, elle connaît par cœur Lola. On dit Lola, mais c'est Raymonde, ou quelque chose dans ces eaux-là. Lola, c'est la fleur du bitume, le myosotis du macadam. C'est le feu de Dieu qui se consume, c'est le Père Noël sapé en dame. Et dans le bar de la Rapière, le beau Hugo de Santiago. On dit Hugo, mais c'est Jean-Pierre, Ken est natif de Landerneau. Le geste sec et l'œil de braise, la lame vive en son fourreau. En écoutant la javanaise, mate la fille à matelot. « Et tous les soirs, elle déambule de bas en haut et du haut en bas. Sous l'œil mouillé des noctambules, remontant le long de ses bas. C'est la petite sœur de la divine, c'est la statue de la liberté. C'est la boussole de la marine, c'est la croix du sud des paumés. Un soir au coin de la rue qui monte, Lola rencontre à son destin. Pendant qu'Hugo calcule et compte la main rapide et l'œil en coin, c'est un petit gars de la marine, celui qu'elle avait dans la peau et qui s'est fait en mer de Chine tatouer Lola dans le bas du dos. Il est revenu son quartier maître, il est revenu son petit soldat. Avec son pompon et ses guêtres, le plaqué là, devant Lola. Alors c'est l'amour qui déchire, qui les envoie au septième ciel. Dans l'hôtel du Rafio qui vire, 15 jours sans revoir le soleil. Qui donc un soir, au fond de la rade, quand il marchait main dans la main, leur adresser cette embuscade. On n'a plus revu le petit marin. On a trouvé que sa vareuse au bout du quai des Islandais, toute pleine de sang et toute poisseuse. Pour qui, pourquoi Lola pleurait. Et depuis dans la rue qui monte, Hugo mate toujours Lola. On dit Lola, mais c'est Raymonde ou quelque chose dans ces eaux-là. Le sort des amants est bien triste, et des histoires dans ces eaux-là. Y en a plein d'autres sur la liste quand Hugo pointe chez Lola. C'est un tango à cran d'arrêt, c'est un tango qui se désosse, c'est un tango qui a le hockey, c'est un tango qui fait des bons, c'est un tango qui dégouline, c'est un qui veut mais qui peut pas. C'est le tango de la débine qu'aurait du dent.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Retour à nos lectures en liberté et à un autre texte de Guy de Maupassant, le fameux texte intitulé « Le petit fût ». Maître Chicot, l'aubergiste d'Épreville, arrêta son tilbury devant la ferme de la mère Magloire. C'était un grand gaillard de 40 ans, rouge et ventru, et qui passait pour être malicieux. Il attacha son cheval au poteau de la barrière, puis il pénétra dans la cour. Il possédait un bien attenant aux terres de la vieille, qu'il convoitait depuis longtemps. 20 fois il avait essayé de les acheter, mais la mère Magloire s'y refusait avec obstination. « J'y suis bien né, j'y mourrai, » disait-elle. Il la trouva épluchant des pommes de terre devant sa porte. Âgée de 72 ans, elle était sèche, ridée, courbée, mais infatigable comme une jeune fille. Chicot lui tapa dans le dos avec amitié, puis s'assit près d'elle sur un escabeau. « Eh bien, la mère, et cette santé, toujours bonne ?»« Oh, pas trop mal. Et vous, maître Prosper ?» « Ah, quelques douleurs, mais sans ça, ce sera à satisfaction. » Allons, tant mieux. Elle ne dit plus rien. Chico la regardait accomplir sa besogne, ses doigts crochus, noués, durs comme des pattes de crabe, saisissaient à la façon de pinces les tubercules grisâtres dans une manne, et vivement elle les faisait tourner, enlevant de longues bandes de peau sous la lame d'un vieux couteau qu'elle tenait de l'autre main. Et quand la pomme de terre était devenue toute jaune, elle la jetait dans un seau d'eau. Trois poules hardies s'en venaient l'une après l'autre, jusque dans ses jupes, ramasser les épluchures, puis se sauver à toutes pattes, portant au bec leur butin. Chico semblait gêné, hésitant, anxieux, avec quelque chose sur la langue qui ne voulait pas sortir. À la fin, il se décida. « Dites donc, mère Magloire, ben, qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? Cette ferme, vous ne voulez toujours point me la vendre ?» « Ah, pour ça non, n'y comptez point. C'est dit, n'y revenez pas. Ben, »« C'est que j'ai trouvé un arrangement qui ferait notre affaire à tous les deux. Ben, »« Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Le v'là, vous me la vendez, et puis vous la gardez tout de même. »« Vous n'y êtes point ? Suivez ma raison. » La vieille cessa d'éplucher ses légumes et fixa sur l'aubergiste ses yeux vifs sous leurs paupières fripées. Il reprit. « Je m'explique. Je vous donne chaque mois 150 francs. Vous entendez bien. Chaque mois, je vous apporte ici, avec mon tilbury, 30 écus, 200 sous. Et puis, il n'y a rien de changé. Rien de rien. Vous restez chez vous. Vous ne vous occupez point de moi. Vous ne me devez rien. Vous ne faites que prendre mon argent. Ça vous va-t-il ? » Il la regardait d'un air joyeux et d'un air de bonne humeur. La vieille le considérait avec méfiance, cherchant le piège. Elle demanda « Ça, c'est pour moi, mais pour vous, cette ferme, ça ne vous la donne point ?» Il reprit « Vous tracassez pas pour ça. Vous restez tant que le bon Dieu vous laissera vivre. Vous êtes chez vous. Seulement, vous me ferez un petit papier chez le notaire pour qu'après, ça me revienne. Vous n'avez point d'enfants, rien que des neveux, que vous n'y tenez guère. Ça vous va-t-il ? Vous gardez votre bien, votre vie durant. Et je vous donne 30 écus de 100 sous par mois. C'est tout gain pour vous. » La vieille demeurait surprise, inquiète, mais tentée. Elle répliqua « Bah, je ne dis point non. Seulement, je veux me faire une raison là-dessus. Revenez causer de ça dans le courant de l'autre semaine. Je vous ferai une réponse de mon idée. » Et Maître Chico s'en alla, content comme un roi qui vient de conquérir un empire. La mère Magloire demeura songeuse. Elle ne dormit pas la nuit suivante. Pendant 4 jours, elle eut une fièvre d'hésitation. Elle flairait bien quelque chose de mauvais pour elle là-dedans, mais la pensée des 30 écus par mois, de ce bel argent sonnant qui s'en viendrait couler dans son tablier, qui lui tomberait comme ça du ciel sans rien faire, la ravageait de désir. Alors elle alla trouver le notaire et lui conta son cas. Il lui conseilla d'accepter la proposition de Chico, mais en demandant 50 écus de 100 sous au lieu de 30, la ferme valant au bas mot 60 000 francs. « Si vous vivez 15 ans, disait le notaire, il ne la payera encore de cette façon que 45 000 francs. » La vieille frémit à cette perspective de 50 écus de 100 sous par mois. Mais elle se méfiait toujours, craignant 1000 choses imprévues, des ruses cachées, et elle demeura jusqu'au soir à poser des questions, ne pouvant se décider à partir. Enfin, elle ordonna de préparer l'acte, et elle rentra troublée, comme si elle eût bu 4 pots de cidre nouveau. Quand Chico vint pour savoir la réponse, elle se fit longtemps prier, déclarant qu'elle ne voulait pas, mais rongée par la peur qu'il ne consentît point à donner les 50 pièces de 100 sous, enfin, comme il insistait, elle énonça ses prétentions. Il eut un sursaut de désappointement et refusa. Alors, pour le convaincre, elle se mit à raisonner sur la durée probable de sa vie. « Bon, je n'en ai plus que pour 5 à 6 ans, pour sûr, me v'là dans mes 73 ans, et pas vaillante avec ça. L'autre soir, Je crus que j'allais passer. Il me semble qu'on me vidait le corps, qu'il a fallu me porter à mon lit. » Mais Chico ne se laissa pas prendre. « Allons, allons. Vieille pratique, vous êtes solide comme le clocher de l'église. Vous vivrez pour le moins encore 110 ans. C'est vous qui m'enterrerez pour sûr. » Tout le jour fut encore perdu en discussion. Mais comme la vieille ne céda pas, l'aubergiste, à la fin, consentit à donner les 50 écus. Ils signèrent l'acte le lendemain, et la mère Magloire exigea 10 écus de pot de vin. 3 ans s'écoulèrent. La bonne femme se portait comme un charme. Elle paraissait n'avoir pas vieilli d'un jour, et Chico se désespérait. Il lui semblait à lui qu'il payait cette rente depuis un demi-siècle, qu'il s'était trompé, floué, ruiné. Il allait de temps en temps rendre visite à la fermière, comme on va voir en juillet dans les champs si les blés sont mûrs pour la faux. Elle le recevait avec une malice dans le regard. On eût dit qu'elle se félicitait du bon tour qu'elle lui avait joué. Et il remontait bien vite dans son tilbury en murmurant « Tu ne crèveras donc point, carcasse !» Il ne savait que faire. Il eût voulu l'étrangler en la voyant. Il la haïssait d'une haine féroce, sournoise, d'une haine de paysan volé. Alors il chercha des moyens. Un jour, enfin, il s'en revint la voir en se frottant les mains comme il faisait la première fois lorsqu'il lui avait proposé le marché. Et après avoir causé quelques minutes, « Dites donc, la mère, pourquoi que vous ne venez point dîner à la maison quand vous passez à Épreville ? On en jase, on dit comme ça que je ne sommes plus amis, et ça me fait deuil. Vous savez, chez moi, vous ne payerez point. Je suis pas regardant à un dîner. Tant que le cœur vous en dira, venez sans retenue, ça me fera plaisir. » La mère Magloire ne se le fit point répéter, et le surlendemain, comme elle allait au marché dans sa carriole conduite par son valet Célestin, elle mit sans gêne son cheval à l'écurie chez maître Chico et réclama le dîner promis. L'aubergiste radieux la traita comme une dame, lui servit du poulet, du boudin, de l'andouille, du gigot et du lard aux choux. Mais elle ne mangea presque rien, sobre depuis son enfance, ayant toujours vécu un peu de soupe et d'une croûte de pain beurré. Chico insistait, désappointé. Elle ne buvait pas non plus, elle refusa de prendre du café. Il demanda « Vous accepterez toujours un petit verre ?»« Ah, pour ça oui, je ne dis pas non !» Et il cria de tous ses poumons à travers l'auberge. « Rosalie, apporte la fine, la surfine, le filandice !» Et la servante apparut tenant une longue bouteille ornée d'une feuille de vigne en papier. Il remplit les 2 petits verres. « Goûtez ça, la mère, c'est de la fameuse !» Et la bonne femme se mit à boire tout doucement à petites gorgées, faisant durer le plaisir. Quand elle eut vidé son verre, elle l'égoutta, puis déclara « Ah ça oui, c'est de la fine !» Elle n'avait point fini de parler que Chico lui en versait un second coup. Elle voulut refuser, mais il était trop tard, et elle le dégusta longuement comme le premier. Il voulut alors lui faire accepter une 3e tournée, mais elle résista. Il insistait. « Mais ça c'est du lait, voyez. Mais j'en bois 10, 12 sans embarras, ça passe comme du sucre, rien au ventre, rien à la tête. On dirait que ça s'évapore sur la langue, il n'y a rien de meilleur pour la santé. » Comme elle avait bien envie, elle céda, mais elle n'en prit que la moitié du verre. Alors Chico, dans un élan de générosité, s'écria « Ah, tenez, puisqu'elle vous plaît, je vais vous en donner un petit fût, histoire de vous montrer que je somme toujours une bonne paire d'amis. » La bonne femme ne dit pas non, et s'en alla un peu grise. Le lendemain, l'aubergiste entra dans la cour de la mère Magloire. Puis tira du fond de sa voiture une petite barrique cerclée de fer. Puis il voulut lui faire goûter le contenu pour prouver que c'était bien la même fine. Et quand ils eurent encore bu chacun 3 verres, il déclara en s'en allant « Et puis, vous savez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Vous gênez point, je suis pas regardant. Plutôt que ce sera fini, plus que je serai content. » Et il remonta dans le tilbury. Il revint 4 jours plus tard. La vieille était devant sa porte, occupée à couper le pain de la soupe. Il s'approcha, lui dit bonjour, lui parla dans le nez, histoire de sentir son haleine, et il reconnut un souffle d'alcool. Alors son visage s'éclaira. « Ben, vous m'offrirez bien un verre de fil, » dit-il. Et ils trinquèrent 2 ou 3 fois. Mais bientôt, le bruit courut dans la contrée que la mère Magloire s'ivrognait toute seule. On la ramassait tantôt dans sa cuisine, tantôt dans sa cour, tantôt dans les chemins des environs. Et il fallait la reporter chez elle, inerte, comme un cadavre. Chico n'allait plus chez elle. Et quand on lui parlait de la paysanne, il murmurait avec un visage triste. C'est hypo malheureux, à son âge, d'avoir pris cette habitude-là. Voyez-vous, quand on est vieux, il n'y a pas de ressources. Ça finira bien par lui jouer un mauvais tour. Ça lui joua un mauvais tour, en effet. Elle mourut l'hiver suivant, vers la Noël, étant tombée saoule dans la neige. Et maître Chico hérita de la ferme en déclarant « Ah, c'te manante, si elle s'était point boissonnée, elle en avait bien pour 10 ans en plus !» Voilà, nous avons terminé pour ce soir cette lecture des textes de Maupassant et nous retrouverons demain une autre lecture. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.